Et dans des Crocs. Enfilez vos Crocs. Mettez-vous confortable. Voici Gravel dans le retour.
Yeah! On est dans le soleil. Normalement, il n'y a pas d'averse pour les prochaines heures, malgré quelques nuages qui circulent dans le ciel de Québec. Demain, c'est encore beau. Même chose pour jeudi. Demain, soleil 23. Jeudi, soleil 26. Et après ça, la pluie s'installe pour vendredi, samedi et dimanche. On a encore des belles histoires de vacances de marde qui sont rentrées dans les dernières minutes. Mais d'abord, sur les routes, Audrey.
Capitale, direction ouest, à la hauteur de Robert Bourassa, ça commence à ralentir. Direction ouest, c'est entre Beau-Royal et Laurentienne que ça se passe. L'entrée du pont Pierre-Laporte, direction sud, c'est quand même difficile au moment où on se parle. Et la 20 ouest, entre la route du président Kennedy et chemin des îles, ça commence à ralentir également, évidemment, quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Saluer l'auditeur qui devait partir pour Myrtle Beach, vendredi qui s'en vient. Inondation historique à cause de la tempête. Voyage annulé. 3 000 $ à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Ça fait mal. Je travaillais de nuit tout l'été. Après être revenu, j'ai eu besoin de voir du soleil. C'est Marie-Pierre qui nous écrit. Partie 1 semaine au Honduras. 2 heures de soleil dans toute la semaine. Pas 2 heures de suite de la grosse pluie, rien de cute, énorme averse à l'infini. Les chars flottaient tout seuls dans les rues. Quelque chose de beau, là, la totale. Un autre témoignage. Je suis allé en Colombie cet hiver vers la fin du voyage. 2 jours avant de prendre l'avion, on avait 8 heures de route à faire dans des chemins plus ou moins beaux. On s'est arrêté pour prendre une petite pause. J'ai mangé quelque chose qui est resté trop longtemps à chaleur. Résultat, j'ai passé une semaine à aller aux toilettes 12 à 20 fois par jour. Oh. Dans l'avion, j'étais côté de la fenêtre. Je calculais...
Je calculais même le temps qu'il n'était pas capable de se retenir. Il a été pogné en plus sur le bord de l'îlot.
J'ai failli être le gars qui chie dans l'avion partout au décollage. J'ai perdu 10 livres cette semaine-là.
Et tu te sens-tu vulnérable en plus? Hein?
Fait que la morale de l'histoire, là, c'est que ça pourrait vous arriver si pendant 20 ans, vous économisez toute votre vie pour prendre votre retraite à 40 ans. C'est ça la morale de l'histoire. D'ailleurs, parlant de ça...
Hey kids, vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Legault.
Alex Leblon, planificateur financier. Salut, man!
Salut, les autres!
Passe un bel été?
Très bel été.
Ah oui, t'as même trouvé le temps de venir jaser ici?
Ouais, avec Audrey, avec Max. J'ai trouvé dans le peu de sujets qu'il y avait, une fois de temps en temps, il y avait quelque chose qui ressortait. Fait que c'est le fun.
Là, aujourd'hui, puis on en a parlé, nous autres, hier, il y avait un dossier dans le Journal de Québec en fin de semaine concernant des gens qui planifient leur retraite pour très tôt dans leur vie puis qui font énormément de sacrifices pour arriver à faire en sorte qu'à 40 ans, 42 ans, 45 ans, tu es en mode retraite.
Ouais, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça suscite beaucoup de réactions. C'est le genre d'article. J'aurais aimé ça qu'il y ait encore des commentaires sur Facebook.
Comment t'appelles ça? C'est le mouvement FIRE, c'est ça?
Oui, c'est mouvement FIRE, c'est Financial Independence Retire Early.
Okay.
Je ne veux pas trouver d'équivalent francophone. Là.
Indépendance financière, ta retraite arrive tôt.
Ça sonne moins big.
Ouais, ça sonne moins hot un petit peu.
C'est dans FIRE, c'est pas mal mieux. Hey, mais c'est un gros dossier en fin de semaine. Ils font soit des dossiers une fois de temps en temps. Là. Il y avait 11 articles. Les topos à LCN, Richard qui fait une chronique.
Il est rendu à 2 chroniques là-dessus, Richard.
Deux chroniques.
Oui, oui, il en a fait un autre aujourd'hui. Oui, ah, ouais. Oui. Pour dire que travailler, c'était rendu trop dur.
Bizarre, parce que d'habitude, il revient pas ses mêmes affaires.
Jamais.
C'est pas comme si mon oncle Richard avait rien que 6 sujets.
On
l'aime
pareil. Fait que c'est ça. Le point de départ, là, c'est de dire... Il y a quelque chose qui s'appelle la rat race. Avez-vous déjà entendu cette expression-là, la rat race?
Je connais le film, là, mais j'ai aucune idée.
C'est quoi que ça veut dire?
La rat race, essentiellement, c'est de dire, OK, je commence à travailler, je sors de l'école, je travaille, puis là, j'ai des dépenses. Puis là, mon salaire augmente, puis mes dépenses augmentent. Puis là, finalement, tu te rends compte que tu es toujours à course, puis ultimement, tu génères rien. Fait que tu sais, le rat race, le principe du rat de laboratoire. Là. Fait que les autres se disent, hey, je veux pas être... abonné à ma propre vie, à quelque part, dans le sens où je veux que je travaille pour bâtir quelque chose, puis que j'arrive le plus tôt possible dans ma vie où je suis 100% en contrôle. Fait que la notion de retraite là-dedans, c'est pas tant je m'assis sur le perron puis je fous rien de ma vie. C'est, OK, je veux m'arranger pour que le plus tôt possible...
J'aie un genre d'indépendance financière. T'es-tu assez organisé, toi, pour... vivre de cette façon-là? T'es-tu quelqu'un qui serait capable de le faire? Nous autres, les trois, hier, on a convenu qu'on serait pas capable.
Toi, tu pourrais, Alex. C'est sûr que tu serais capable. Ben, j'ai déjà vu le duct tape sur ton ancien char. Tu pourrais.
Là, j'ai plus ça.
Non, t'as plus de char.
Oh, c'est vrai. Mais moi, tu vois, ce que j'ai fait, c'est... Tu sais, je travaillais avec vous autres à la radio.
Oui.
Puis je faisais pas un bon salaire. Là. Un salaire un peu merdique. Mm-hmm. Mais j'étais à l'université, puis j'ai droppé significativement de salaire.
Oui.
Puis je suis sorti de l'université, puis là, je me suis fait des très bons salaires, mais j'ai jamais dépensé une pièce de plus.
Parce t'as pas que... changé ton mode de vie. Puis...
C'est ça, j'allais déjà au resto comme je voulais, j'avais pas besoin d'un plus gros char, j'avais pas besoin. Fait que moi, je suis pas dans le mouvement, là, dans la mesure où je suis pas aussi intense que certains, mais d'un point de vue mathématique, là, à moins d'une grosse surprise, là, je vais probablement me retrouver là parce que j'ai pas inflationné mon niveau de vie avec mes dépenses, à mesure où pendant 3 ans, j'étais bien. Fait que je suis bien même si j'ai plus d'argent disponible.
Mais pour y arriver, là, mettons à dire 40 ans indépendance financière avec un salaire moyen, il faut que tu économises un pourcentage hallucinant de l'argent que tu reçois là, pour arriver à cet objectif-là. Là.
Généralement, là, c'est entre 60 et 70 du net. Fait que ça veut dire que tu reçois ton brut, après ça, tu as Revenu Canada qui passe là-dessus, Revenu Québec, RRQ, on avait fait le talon de paie l'an passé, tout ça passe, mettons qu'il te reste 1 000 $, ben, tu prends 700 $, tu le mets de côté, puis tu vises le 300.
Fait tu restes chez tes parents.
Ben, c'est là où il y a comme beaucoup de moqueries, là, puis il y en a que c'est un peu caricatural, mais il y en a où c'est vraiment intéressant. Le gros point de litige, il y en a deux, là, c'est l'aspect locataire-propriétaire, puis l'aspect des enfants. Mettons, moi, je prends l'exemple de mon père, là, qui a eu le malheur dans sa vie d'avoir deux filles qui sont devenues passionnées d'équitation. C'est tough.
Ça, c'est un loisir abordable. Hein?
Ah ouais,
oui, vraiment. Cher, tout le monde peut pratiquer ça, l'équitation.
Ah ouais, puis ce qui est le fun, c'est que ça brise pas cette affaire-là.
Non, c'est vrai.
Vraiment, là, jamais malade. Fait que, tu sais, mettons, le père que ses deux filles font de l'équitation versus le père que. La personne qui n'a pas d'enfant ou soit le père que ses deux filles font du soccer.
Pas à même place, hein?
C'est ça. Je te dis pas que le soccer, c'est gratis, là, mais c'est pas la même game, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de différences. L'aspect habiter chez ses parents, il y en a qui font ça pour de vrai. Mais je te dirais que la majorité, tu sais, moi, je lis tous les blogs là-dessus, puis je trouve ça quand même intéressant. La majorité sont en logement. Ils vont habiter à Montréal, ils vont habiter à Québec dans un genre de 3,5, 4,5, 5,5.
Ce qui répond à leurs besoins minimum.
C'est ça, besoins de base. C'est des visions très européennes de l'habitation, mettons. Tu sais, en Europe, là, quand tu t'en vas dans un grand centre, tu sais, des banlieues comme, avec respect, là, c'est pas pour planter Saint-Émile, là, mais tu sais, un Saint-Émile, là, ça n'existe pas tant ailleurs qu'en Amérique du Nord. Tu sais, un Val-Bélair. Mm-hmm. Les gens habitent principalement en ville, paient très peu pour se loger, puis c'est le même. Fait qu'eux autres ont comme cette vision-là un petit peu moins nord-américaine de l'habitation qui fait en sorte qu'il leur reste plus d'argent dans leur poche pour mettre ça de côté.
Tu sais, tu parlais de ton expérience personnelle puis de certains principes de base parce que, bon, évidemment, quand on ouvre un dossier comme celui-là dans le journal, c'est souvent des cas extrêmes qu'on te présente pour faire réagir. Mais il y a quand même des principes de base qui peuvent être drôlement utiles puis qu'on peut s'inspirer de ça justement pour peut-être pas prendre sa retraite à 40 ans ou atteindre son indépendance financière à 35 ans, mais peut-être en ramasser un petit peu plus, un petit peu plus vite.
Le premier, puis ça c'est le principal, puis c'est celui que j'essaie toujours de parler dans mes rencontres clients, puis ça marche pas tout le temps, mais c'est correct. Les gens qui sont arrivés à ce point-là, là, ça veut dire à 37, 39, 40 ans, 42 ans, puis qui n'avaient plus besoin de travailler, il y avait le « fuck you money », comme on appelle, là, sans dire que c'est 5 millions, là, juste assez pour dire « hey, cette affaire-là, ça ne me tente pas de le faire, je ne le fais pas », c'est des gens qui n'ont jamais ou presque eu de dette de consommation.
OK.
Fait que dette de consommation, c'est pas...
C'est pas de la cocaïne.
Non, c'est pas ce qui se passe dans certains coins à Saint-Roch. Là. Les dettes de consommation, c'est « hey, je suis allé chez magasin de meubles XYZ.
J'ai acheté à tempérament.
C'est ça. Mm-hmm. Le frigo coûte 5 000 $. Mais non, moi, il me coûte 200 $ par mois pendant X mois. Fait qu'ils n'ont jamais, tu sais, leurs meubles, ils ont acheté à bas prix. Ils sont lettres, mais ils ont acheté à bas prix. Tout ce qui est électroménager, tout ce qui est auto, ils n'ont jamais eu de pire auto. Ils ont toujours acheté usagé. Fait que tout ce qui est le coût d'opportunité puis de renonciation qui est généralement relié à ces dépenses-là, eux autres, ils l'ont jamais eu. Fait qu'à place de mettre ça dans des paiements de un petit 17 par mois, là, un petit 20, un petit 50, un petit 100.
Alors qu'il y a un intérêt à l'intérieur de ça, puis on a l'impression qu'il n'est pas là parce qu'on nous a fait miroiter. Hey, c'est 2 ans sans intérêt alors que c'est pas tant ça.
Ben non. Puis ça peut être sans intérêt dans la structure du magasin, mais il y a toujours un concept qui est vraiment con en finance, là, mais qui est dur à mettre en application. Puis j'ai l'air niaiseux quand je dis ça, mais la pièce que tu as dans ta poche, là, tu peux la dépenser une seule fois. Fait que si ta dépense à gauche, tu renonces à la dépenser à droite. Fait que mettons que je mets 100 $ pour mon beau frigo là, par semaine où je peux aller sur...
Il y a Internet dessus.
Il y a Internet sur le frigo.
Fais souper.
Ben, le 100 $ que je mets là, c'est un 100 $ que je n'investis pas. Puis si je l'avais investi, ben, il aurait généré, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7 de rendement par année accumulé à chaque année pendant 100 ans. Applique ça pendant 100 ans. Pendant 10 ans, 100 ans ne serait pas pire. Applique ça à chacun de tes postes budgétaires ou à peu près. Ben, c'est là où, OK, si tu commençais à 25, 26, mathématiquement, là, à 40 ans, tu es maître de ta propre vie. Là. C'est presque impossible que ça n'arrive pas.
Hier, quand on a eu cette conversation-là à 3 tours de la table, Alex, je prenais l'exemple de ma sœur. Ma sœur vit pour les expériences, vit pour les voyages. Elle est dans une job, elle est bien chanceuse, où elle peut se permettre des 6 mois de demi-sabbatique une fois de temps en temps, puis là, elle en profite pour aller en Chine, elle en profite pour aller en Amérique du Sud, aller en Écosse, faire ses trips de kitesurf, de je sais pas quoi, puis... ouais, c'est bizarre, là, mais j'adore ma sœur, mais tu sais, elle, c'est ça.
En fonction de ça.
C'est ça. Sa vie, c'est... Et ses investissements, ça va être sur des expériences, ça va être sur des voyages. Ouais. Ils sont un peu de même.
Ouais, vraiment. Puis moi, j'en ai eu une coupe... Justement, qui sont venus des chroniques des fois, des gens juste curieux qui m'ont booké, puis ils me disaient hey, « on est dans Fire ». Puis là, juste une genre d'analyse de leur portefeuille, mm-hmm. de leur situation.
Savoir, j'hallucine-tu ou je vais être vraiment capable de me rendre à 40
demain? Oui, c'est ça. Puis tous ceux à qui j'ai parlé, là, qui étaient vraiment dans ce mouvement-là, c'est exactement ça. Eux autres, payés pour un frigo, ils trouvent ça cave. Payés pour un char, ils trouvent ça niaiseux. Ouais. Mais ils vont dropper 5 000 $ sur un voyage d'une semaine et demie. Ils vont dépenser des fois... 20-25 000 $ par année en voyage. Pourquoi? Parce que c'est une expérience. Fait qu'eux autres, ils accordent à peu près aucune importance à un bien matériel. Là. Mais souvent, ils font ça. C'est des travailleurs nomades, souvent. En 2024, tu peux faire ça. Là.
Fait que l'objectif, c'est pas toujours la retraite. L'objectif, c'est de pouvoir de vivre sans dette puis sans avoir à se poser, sans avoir la pression du travail obligé, mettons. Là.
Moi, j'ai pas rencontré beaucoup de monde que l'objectif, c'était de se lever le matin puis de rien faire. Là. Parce que, hey, c'est long une journée, c'est long une semaine. T'sais.
T'en rêves peut-être une semaine, mais après ça, tu décroches.
Ben, c'est ça. L'idée, c'est de dire, hey, il n'y a pas personne nulle part qui va me dire quoi faire. Puis quand on parle d'être abonné à sa propre vie, là, c'est une expression que j'aime parce que ça veut dire que, hey, mettons que tu as 47 ans, tu as ton paiement de char, tu as ton paiement hypothécaire, tu as ton paiement pour tes meubles, tu as ton paiement pour ta marge de crédit. Tu peux pas arrêter demain matin. Tu es pogné là, ouais. Buddy. Il n'y a rien à faire. Fait que c'est pour éviter
ça. Tu as des obligations financières.
Ouais.
Dans les conclusions qu'on a eues en discutant ensemble, on disait il y a autant de moules qu'il y a d'êtres humains. Il y a autant. Tu sais, il n'y a pas une recette qui va bien faire pour tout le monde. Puis moi, c'est une conversation que j'ai eue. Tu sais, on a des connaissances communes qui ont un peu ce mode de vie-là, Alex, de dire moi, j'économise sur tout. Puis quand tu parles à ces gens-là, puis tu dis ben oui, mais ça, tu manques ça, puis ça, t'as pas ça, puis ainsi de suite. Ils disent, ben moi, ça me dérange pas ou ça m'intéresse pas ou je vois pas ça comme une priorité. Ces gens-là, c'est pas des gens qui jeûnent. C'est pas des gens qui ont l'impression de se priver dans leur choix de vie, tu sais.
Oui, ben ça revient à ce qu'on disait tantôt parce que pour eux autres, avoir un Mercedes ou avoir un char de luxe, ça résonne rien. Puis ça, c'est une question de personnalité, là. Il y en a pour qui ça va être un objectif. Ça va être un... Ils aiment ça, c'est pour ça, pour le standing ou ça. Puis c'est correct.
Mon vieux char, il roule-tu encore? Oui, je m'en sers pour rouler. J'ai pas besoin de rien d'autre.
Puis c'est ça que je trouve le fun dans ces discussions-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'y adhérer ou non. C'est une question de personnalité. Puis même nous autres, là, dans notre job, là, quand on parle à des clients ou quand on parle à du monde, on dit toujours, tu sais, moi, ma job, là, c'est de faire l'aspect mathématique. Là. mais j'ai aucun pouvoir décisionnel dans l'histoire. Là. C'est ton argent, ta vie, mais moi, au moins, je veux que tu saches que les décisions que tu prends, tu les prends en sachant toutes les conséquences positives et négatives de cette décision-là. Fait que je ne vais jamais te dire, « Hey, acheter un char ou acheter telle affaire, t'as-tu pensé à telle affaire? » Fais-le si ça tente, mais voici la situation. Fait que moi, j'aime pas ça être... C'est ce que plusieurs personnes reprochent au mouvement, des fois, là. Mm-hmm. L'aspect un peu preacher, puis l'aspect...
Ben, tous les mouvements sont un peu de même, là, veux-veux pas,
tu
là.
Tu fais du crossfit, t'es preacher, ouais. Tu t'alimentes bien, t'es preacher. Fait que tous ceux qui ont l'impression d'avoir réussi quelque chose, pourquoi eux, c'est, pour qui c'est important, là, ben, ils vont être preacher de même, là.
Ouais, fait que ça, c'est le but un peu moins le fun, là, mais t'as raison, c'est une question de personnalité, puis une question de fit.
Oh, j'ai déjà dit à un planificateur financier que j'arrêterai jamais de travailler parce que je sais pas compter, puis je saurais jamais quand est-ce que j'aurai assez d'argent pour arrêter de travailler? Tu sais, veux pas. Ouais. Comment on fait pour le savoir? Tu sais, je sais pas, là, si je regarde dans mon compte, là, je sais que j'en ai pas assez, là, mais quelqu'un qui économise puis qui a un objectif, quand est-ce qu'il sait, OK, là, bon an, mal an, j'en ai assez, je suis capable de passer le reste de mes jours à travailler rien que quand j'ai le goût?
Ouais, il y a plusieurs variantes à ça, là, parce que même le mouvement FIRE, ben là, il y a Coast Fire, Barista Fire.
OK, en fait, bon,
tabarnouche. On regarde la base, là, puis Waiver, c'est pas un conseil financier, ça, là, c'est un calcul de coin de table. Mm-hmm. Généralement, là, ils disent que à 25 fois tes dépenses annuelles, tu devrais être correct pour atteindre ce niveau-là d'indépendance financière. Puis sans dire que tu vas plus jamais générer de revenus, tu es correct pour dire « Hey, ce job-là, ça me tente pas de la faire ». Ainsi de suite. Là. Fait que, tu sais, mettons que tes revenus, c'est 20 000 $, tes dépenses, pardon, c'est 20 000 $ par année. Si tu as 500 000 de disponibles, normalement, tu devrais être correct selon cette logique-là. Par contre, il y a un gros astérix, là, dans la mesure où faut que tu maintiennes le même niveau de vie. Là. Si ouais. Tu te mets à partir sur le party, ben, tu vas manquer de cash. Là. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'aspect. Nous autres, on deal avec ça beaucoup, là, le risque de survie. Là. Quand on fait des planifs, on est obligé de les faire jusqu'à 95 ans ou même 98 ans dans certains cas. Puis les clients nous disent « Hey, c'est bien trop vieux ». La réalité, c'est que Harvard Medical School là, disent que le premier être humain à toffer jusqu'à 150 ans, là, il est né présentement.
Hein?
Il s'en vient. Puis il va toffer.
C'est ça. Ils ont peut-être pas raison. Là.
Fait que tu te fais un plan d'épargne jusqu'à 95 ans. Quand t'as 30 ans, tu le vois pas de même. Mais le plus gros risque, c'est que tu survives à ton plan puis que tu te rendes à 102 ans, mettons.
Ben, c'est ça. Parce que là, tu sais, mettons, prends quelqu'un qui tombe à la retraite à 65 ans. Ben, nous autres, quand on le planifie, là, les sources de revenus, ben, on a la RRQ, on a la pension de sécurité de vieillesse. Des fois, on a un fonds de pension. Quelqu'un qui apprend à 40, ben, il n'a pas accès à son RRQ pendant au moins 20 ans. Mm-hmm. Il n'a pas accès à sa pension du fédéral pendant au moins 25
fait
ans.
Il faut que tu maximises tes autres placements pour pouvoir compenser ce pas de versement-là.
Oui. Fait que la pression sur les retraits là, est beaucoup plus grande. Fait que c'est pour ça que tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de garder vraiment ton niveau de vie au minimum. Fait que si tu étais à l'aise pendant que tu accumulais tout ça, c'est correct. Mais si tu étais toujours à la gorge, à la gorge, à la gorge, probablement que ça ne marche pas vraiment. Puis l'autre affaire, ben, tu es un peu tributaire des rendements. C'est là, les rendements, on a toujours ce qu'on appelle le recency bias. Là, ça fait depuis 2011 à peu près là, que les rendements sont écœurants si tu enlèves 2022. Fait que tout le monde dit, fais des projections en 8, 9, 10 % puis c'est facile.
Ah, mais quand tu as une année d'inflation à 7 % quand tu vas boire des bonnes projections...
Ou la décennie, tu prends la décennie de 2000 à 2010 à peu près, là, sur le marché américain, par cet exemple-là, ça fait 0 $ ou à peu près. Mm-hmm. Là. Fait que pendant ce temps-là, si tu fais zéro de rendement, mais là, tu touches beaucoup, beaucoup, beaucoup à ton capital. Fait que le plan dure pendant combien de temps? C'est là où c'est dangereux.
Alex Leblon, planificateur financier, les gens qui se lancent dans un genre de mouvement FIRE puis qui veulent économiser le plus possible pour prendre leur retraite ou leur indépendance financière de bonheur, comment ils vivent et comment ils interagissent avec les assurances? Je trouve qu'on est une société d'insécure. On se prend des assurances pour tout au cas où. Mais eux autres, dans leur plan de match, j'imagine que des assurances, ils n'en prennent pas pour économiser puis piler le plus possible. Mais en même temps, s'il arrive un imprévu, dans leur plan, ils sont dans le trouble.
Ouais, ça, c'est comme le gros danger qui les guette. Là. Puis moi, nous autres, on en fait de l'assurance. Là. Mais moi, mon thinking là-dessus, si on regarde les gros producteurs d'assurance dans le réseau, je ne suis pas le pantoute. Là.
Okay.
Parce que notre thinking, c'est de dire, voici c'est quoi ton risque. C'est à toi de décider si tu veux le prendre toi-même ou si tu veux le partager avec un assureur. Ça fait que, mettons, tu dis, hey, c'est quoi mon risque d'avoir une maladie grave entre, mettons, mes 29 et mes 65 ans, c'est quelque chose du genre 25 %, 27 %. Fait que t'as bien plus de chances de pas en avoir, en réalité. Fait que si tu peux prendre ce gamble-là, c'est bien correct.
Ouais.
Par contre, les dangers financiers, si ça arrive, t'es pas protégé, sont vraiment grands aussi. T'sais, ton risque là-dessus, il est élevé. Fait que souvent, j'en ai vu des cas où fire, tombe malade. OK, ben là, la RAMQ couvre pas tel médicament, couvre pas tel traitement. Plan ton ballon un peu. Là. Fait que oui, il y a ce danger-là.
Pierre-Luc qui nous texte, ça fait des journées longues et plates si tu dois toujours te serrer la ceinture à la retraite. Je vois un peu la vie de la même façon, mais c'est un peu la beauté de la patente, Alex, c'est qu'il y a des leçons à retenir d'à peu près tous les choix de vie. Puis en même temps, il y a un plan de vie pour chaque choix de vie que tu fais aussi. Il faut se connaître un peu. Moi, je suis pas capable. J'ai besoin de voir des nananes une fois de temps en temps. Sans ça, la routine advient déprimante puis advient assommante. J'ai besoin de plaisir dans ma vie puis je suis pas un gars patient. Je peux pas attendre d'avoir 50, d'avoir 55 ans. Une fois de temps en temps, ça me prend un nanane voyage, ouais, un nanane cadeau.
Il y en a pour qui que le nanane, ça va être pas s'acheter des marques maison pour cette semaine-là. Fait que tu sais, eux autres, ils ont pas l'impression de faire des gros sacrifices. Mais... Audrey, ton chum est de même.
Absolument. Je confirme.
Fait que dans le fond, la meilleure leçon à retenir, c'est un peu ça, Alex, c'est d'avoir un plan de match qui correspond à ce que t'es puis à tes priorités. Là.
Moi, ce que je dis toujours, là, je pose une question qui a l'air super générique, voire stupide. Là. T'es-tu le boss de ta propre vie?
Hein?
Aujourd'hui, là, c'est-tu toi qui cales les shots? C'est une question où ça prend une certaine réflexion. Là. Si tu juges que oui, parfait, on se met sur le cruise puis on touche à rien. Là.
Mm-hmm.
Si tu trouves que non, mais c'est là où, OK, on regarde comment on change les choses puis comment on fait pour que tu deviennes le boss de ta propre vie. Si tu décides que ça vire à gauche demain matin, ça vire-tu à gauche ou t'es pogné pour virer à droite?
Mmh. Tu viens de trouver le titre de ton prochain livre. Es-tu le boss de ta propre vie?
Très bon,
c'est
hein?
Par, le tome 2. Là.
Par Alex Leblanc.
Ouais, après, la retraite est dans ton driveway.
Tu peux-tu faire la préface?
Avec plaisir. Hey, merci, Alex.
Merci à vous autres.
Alex Leblanc, planificateur financier. Il est 4h-10. Jelly Roll est partout. Savez-vous où il était en fin de semaine?
À Lutte.
À SummerSlam, où il a fait un choke slam spectaculaire. Le gars est gros. Ça veut pas dire qu'il est pas athlète. Sérieux, t'as-tu vu ça?
Non.
Malade. J'ai Jelly Roll.
Il y avait les Olympiques.
Non, mais c'est drôle, hein, parce que la lutte, c'est tout ou rien. Puis Jelly Roll, quand il était petit, il tripait. Tu voyais dans ses yeux sur le ring qu'il vivait le trip de sa vie. Le gars joue devant des dizaines de milliers de personnes puis devient pas les yeux ronds comme il y a eu les yeux ronds en fin de semaine à SummerSlam à la WWE. Il est partout, Jelly Roll. C'est Toon Pong sur les stations rock, les stations country.
Il fait des collabs avec plein de monde.
Ouais, ben là, c'est pour vrai. Puis qui en profite, tabarnouche, le gars a une vie tough. Il a été en prison longtemps. Il est repenti. Il a de l'air d'un tripeux. Il a de l'air d'un bon bonhomme, Master Jelly Roll. Et faut en profiter pendant que ça passe. Mais là, c'est son temps à lui. Jelly Roll, Halfway to Hell à Boulevard. Lui, à 40 ans, il va être correct, je pense. Save you, boy. He gave you some food.